France Inter, franceinter.com.
J'ai le désir que les Français, aussi nombreux que possible, prennent dans vos usines la place de ceux qui partent sur le front de l'Est. Lettre de Pierre Laval au ministre allemand des Affaires étrangères, le 12 mai 1942. Ans d'histoire. De toutes les formes de la collaboration pendant la guerre, le service du travail obligatoire, le STO, fut sans doute celle dont Hitler avait le plus besoin. Pour remplacer les travailleurs allemands mobilisés dans son armée, il lui fallait recruter de la main-d'œuvre dans tous les territoires occupés par le Troisième Reich. Au début, c'était des volontaires, mais au fur et à mesure que la guerre se prolongeait, les besoins de l'Allemagne étaient tels qu'en juin 1942, le responsable allemand du recrutement de la main-d'œuvre dans les territoires occupés, Fritz Sauckel, demandait au chef du gouvernement français, Pierre Laval, l'envoi en Allemagne de 250 000 travailleurs qui seraient échangés contre des prisonniers de guerre français. C'est ce qu'on a appelé la relève, la première étape de ce qui allait devenir plus tard le STO. Pierre Laval, le 22 juin 1942.
Depuis que l'Allemagne fait la guerre aux Soviets, la main-d'œuvre d'un grand nombre de nos prisonniers lui est devenue indispensable. Pendant ce temps en France, de nombreux ouvriers sont sans travail alors que l'Allemagne a un besoin urgent de main-d'œuvre. Je sais que ce n'est jamais en vain qu'on fait appel à la raison et à la générosité des ouvriers de France. S'ils répondent à mon appel, s'ils acceptent d'aller travailler en Allemagne, je sais qu'ils y trouveront bon accueil, ouvriers de France. C'est à vous que des prisonniers devront leur liberté. C'est la relève qui commence.
En zone non occupée, comme en zone occupée, la grande relève des prisonniers est commencée. À Lyon, nombreux sont les ouvriers qui ont répondu à l'appel du maréchal et du président Laval.
Jean-Pierre Vittori, bonjour.
Bonjour.
C'était une archive française de 1942 annonçant, on vient de l'entendre, ce qu'on a appelé la relève. Vous en parlez au début du livre sur le STO que vous avez écrit chez Ramsay, mais la relève, ce n'était pas encore le STO, le service du travail obligatoire, puisque les Français qui sont partis en Allemagne jusqu'en 1942, c'était des volontaires. Qu'est-ce qui pouvait pousser des Français à partir volontairement travailler en Allemagne, dans le pays qui occupait la France ?
En tous les cas, ce n'est pas par idéologie. La plupart sont partis parce que la France de 1940 était une France ruinée. Il y avait 1 million de chômeurs uniquement dans la zone occupée. Dans la région parisienne, il y avait 60% de ces chômeurs-là. Donc, on imagine l'état dans lequel se trouvaient, les familles. Les familles appauvries qui avaient du mal à vivre. Donc, comment travailler, où travailler, comment gagner de l'argent, comment nourrir sa famille. Et les volontaires, ils ont obéi essentiellement à des raisons, justement, de
matériel aussi.
Matériel, essentiellement matériel. Oui.
Qui était donné par l'Allemagne, parce que l'Allemagne, elle, avait besoin, au contraire, de main-d'œuvre, puisqu'elle avait mobilisé 7 millions d'hommes dans l'armée pendant toute la durée de la guerre.
Et elle va en mobiliser de plus en plus. Et malgré, d'ailleurs, le fait de cet appel à la relève, pas encore à la relève, mais au volontariat, le fait également qu'on proposait des salaires qui étaient le double, pratiquement parfois le triple de ce qui était proposé en France, dans la France occupée ou dans la zone libre. Malgré cela, les gens ne vont pas se bousculer. Les Allemands vont ouvrir des offices de placement, d'abord en zone occupée, ensuite en zone non occupée. Et cela ne va pas convaincre les Français de se rendre en Allemagne malgré la misère. Ils vont chercher à survivre dans leur pays.
Alors, autre motivation, on l'a entendu dans la bouche de Pierre Laval, c'est la relève, c'est-à-dire l'idée que pour 3 travailleurs, je crois, partant en Allemagne, on libérait un prisonnier de guerre qui s'y trouvait, c'est ça ?
Voilà, pour un spécialiste.
Pour un spécialiste.
Pour un spécialiste. Donc, devant l'échec de cette première phase, le volontariat complet, on va essayer de lancer une sorte de relève, la relève volontaire des travailleurs pour libérer les prisonniers de guerre en Allemagne. 1 sur 3. Donc, cette phase va être lancée par Pierre Laval le 22 juin 1942. C'est ce jour-là également qu'il dit souhaiter la victoire de l'Allemagne, entre parenthèses. Et ça va, créer, le croit-on, un afflux de travailleurs en Allemagne, et ça ne sera pas le cas. Malgré cela, les Français ne partiront pas ou partiront, à contre-cœur en Allemagne, parce que dans le pays, chaque famille, il faut savoir qu'il reste encore en Allemagne environ 1 300 000 prisonniers. Que les jeunes Français, les jeunes travailleurs français vivent à côté des familles de prisonniers. Lorsque la relève est lancée, les familles de prisonniers disent « si cet ouvrier part, mon mari, mon père va peut-être revenir ». Ça crée une atmosphère difficile, un peu irrespirable dans les villages, dans les villes de France.
En tout cas, une forte pression allemande. Sokel exige en août 1942 un contingent de 250 000 travailleurs supplémentaires et Laval fait voter une loi le 4 septembre 1942, qui va encore un peu plus loin. Ce n'est pas encore le service de travail obligatoire, mais c'est pratiquement pareil, Jean-Pierre Vittori.
Exactement, c'est l'échec de la relève volontaire. Non, on va essayer de créer un système de relève forcée. Ça veut dire, par la loi du 4 septembre 1942, on va essayer, d'envoyer un maximum de travailleurs français en Allemagne. Comment ? Il faut savoir que dès 1940, dès l'occupation, la France a été décentralisée. On a nommé des préfets régionaux, des préfets régionaux. Et ces préfets régionaux ont la haute main sur la police et sur l'économie. Ce sont donc eux qui vont s'occuper, par le biais du ministère de la production industrielle et du ministère du Travail, de recenser les ouvriers directement dans les usines. La réquisition du 4 septembre 1942, c'est ça. C'est la réquisition dans les usines. Ça veut dire qu'on recense les ouvriers dans les usines, on recense les chômeurs dans les villages, et on va essayer d'envoyer le maximum de célibataires, de spécialistes, mais si possible célibataires. On va en désigner 20, 30, 40, 50, 100 parfois par usine. On fait des listes et on dit à ces gens, vous partez pour l'Allemagne. Vous partez pour l'Allemagne, on affiche la liste et deux, trois jours après, parfois une semaine maximum, ces jeunes ouvriers, jeunes pour la plupart, doivent partir.
Alors cela dit, Sokel en exige encore plus. En décembre 1942, il exige à nouveau 250 000 travailleurs supplémentaires, ce qui pousse Laval à décréter le STO, le service du travail obligatoire, le 16 février 1943, qui provoque le départ de nouveaux contingents de travailleurs vers l'Allemagne.
Un nouveau contingent part pour l'Allemagne. Ils partent, je crois, pour Berlin, ils sont 47, et sur le quai de la gare, en attendant que le train s'en aille, nous allons, si vous le voulez bien, interviewer quelques-uns, et surtout les parents. Comment t'appelles-tu, toi ?
Dévo.
Vous êtes la maman, madame ?
Oui, aussi.
Alors, votre grand garçon s'en va ?
Ben oui, malheureusement.
Naturellement, un petit peu embêté, bien sûr, hein, je comprends ça. Ben, vous savez, vous voyez dans quelles conditions il part. Il part dans de bonnes conditions. Hein. Avec tous ses camarades, vous voyez que le départ est joyeux.
Ben oui, mais j'aimerais mieux le garder.
Naturellement, je comprends ça parfaitement. Enfin, il va apprendre un bon métier, vous n'en faites pas, et il reviendra à gaillard. D'ailleurs, il est déjà gaillard. Merci. Alors, t'es content de partir, toi ?
Oui, monsieur.
Tu pars comme quoi, toi ?
Comme tourneur.
Comme tourneur ?
Oui.
Bravo, ben mon vieux, je te souhaite bon voyage et bonne chance.
Merci beaucoup.
Merci. Et voici que le train démarre. Nous vous l'avons dit, ces jeunes partent dans les meilleures conditions possibles. Ils vont faire un beau voyage, ils vont découvrir un pays nouveau. Et quand ils reviendront, ils auront acquis un beau métier qui leur servira pour l'avenir.
Incroyable ce reportage à la gare de l'Est en 1943, Jean-Pierre Vittori. On a l'impression que, au fond, ils ne demandent que ça, à partir en Allemagne, ces jeunes qui sont
qu'ils
partent au titre du STO, service du travail obligatoire.
Oui, ils partent au titre du STO, cela. Ça veut dire qu'on a sélectionné. Ça se passe un peu, c'est le service militaire. Hein. C'est un peu comme le service militaire. Ça se passe par classe. On détermine des classes. Là, la classe 1920, 1921 et 1922. Elles sont donc désignées pour un service militaire. comme pour un service militaire, et elles sont désignées pour l'Allemagne, elles doivent partir en Allemagne. Le départ ne se passe pas dans des conditions aussi idylliques.
Déjà, là, on a bien vu d'ailleurs que la dame, qui était la mère du jeune garçon qui s'en allait, disait « j'aimerais bien qu'il reste » et que tout de suite le journaliste la coupe. Hein.
Absolument. On coupe, l'information est très orientée, évidemment. Tout ce qui est manifestation, il y en a eu de nombreuses. Tout ce qui est protestation est effacé dans les grands reportages de la radio soi-disant française de l'époque.
Alors, vous le rappelez, Jean-Pierre Vittori, là, le changement par rapport aux lois précédentes, celle sur la relève, celle du 4 septembre 1942, c'est que ce n'est plus sur une base professionnelle que sont recrutés les gens qui partent, qui sont envoyés en Allemagne, mais c'est par classe d'âge, et quel que soit leur métier.
Par classe d'âge et quel que soit leur métier, sauf certains qui sont encore dans des secteurs qui sont protégés, comme les cultivateurs, comme les gens qui travaillent dans les mines, par exemple, ou qui travaillent dans l'industrie d'armement. Ceux-là peuvent se faire exempter. Un peu comme pour le service militaire,
oui.
Les inaptes, mais inaptes, vous savez, il y a une visite médicale, il passe devant un médecin qui le regarde de loin et qui marque apte, parce qu'on a besoin d'énormément de main-d'œuvre. Les Allemands en demandent de plus en plus, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Donc voilà, quoi. Donc ils partent en protestant, mais ils partent.
Alors il y a quand même donc une partie de responsabilité considérable des autorités françaises. D'ailleurs, comment expliquer que Laval accepte quelque chose qui est évidemment très favorable à l'Allemagne ? Pourquoi charge-t-il les fonctionnaires français, la gendarmerie française, la police française, car c'est elle qui s'occupe au fond de vérifier si les requis sont bien partis ou qui va les chercher au besoin ? Comment expliquer que Laval, de même qu'on a vu plus tard, dans des conditions beaucoup plus tragiques, en 1942, les rafles du Veldiv opérées par la police française ?
Mais Laval l'a dit le 22 juin 1942, il souhaite la victoire de l'Allemagne contre le bolchevisme. Il souhaite la victoire de l'Allemagne et puis également, il pense obtenir des contreparties des nazis. Il n'en obtiendra jamais beaucoup, mais il espère toujours constituer avec l'Allemagne un axe équilibré, ce qui est une utopie et qui a été qui a conduit aux pires excès de la collaboration. Juste un mot pour dire, effectivement, à ce moment-là, l'administration est extrêmement efficace. Il ne faut pas nier l'efficacité de l'administration en 1942, début 1943. Il ne faut pas nier non plus l'efficacité de la police, parce que les gens qui ne veulent pas partir sont pourchassés. Ils sont pourchassés, bien souvent retrouvés, mis dans des centres d'internement et expédiés en Allemagne, encadrés par des policiers ou par des gardes mobiles.
Et encouragés en tout cas par les autorités de Vichy, comme le ministre du Travail Marcel Déa, tandis que la propagande alliée, au contraire, encourageait les jeunes Français à refuser le STO. Mais d'abord, Marcel Déa.
Je ne trouve ni exorbitant ni scandaleux que l'Allemagne demande à la France de l'aider par son travail. À l'heure où toutes les forces germaniques sont jetées dans la bataille pour la défense commune, la jeunesse de France doit logiquement assumer au service du pays une charge qui lui revient comme un honneur.
Ne va pas en Allemagne.
L'Amérique vous parle de la résistance française au décret allemand sur le travail obligatoire.
Premièrement, nous allons vous montrer que cet essai de réduire toute la France à l'esclavage fait partie du plan diabolique d'Hitler pour dépeupler la France.
Deuxièmement, si les ouvriers français n'avaient pas refusé de partir pour l'Allemagne, ils y seraient traités en bêtes de somme.
Aller en Allemagne, c'est partir pour le bagne.
Ne va pas.
Et c'était la propagande alliée qui, de Washington ou de Londres, encourageait les Français à refuser le STO. Il y en a eu quand même un certain nombre qui ont rejoint les maquis, Jean-Pierre Vittori.
Oui, il y a eu, on a comptabilisé environ 180 000 réfractaires, ça veut dire des gens qui ont refusé de partir. En réalité, il y en a probablement autour de 250 000. Alors bien sûr, surtout à partir de l'été 1943, jusqu'à l'été 1943, il faut quand même pas oublier qu'il partait à peu près 2 000 personnes par jour pour l'Allemagne. Par jour. Tous les jours, ça paraît inimaginable, mais ça a duré quand même du mois d'octobre 1942 au mois de juillet 1943.
Parce que plus de faire... 600 000, hein, au
son oui, parti. Oui, 500 000 jusqu'en mars, il en était parti 500 000 en mars 1943, et on voit qu'ensuite, il en part beaucoup moins. Mmh. Il en part beaucoup moins, pourquoi ? Parce que l'administration française y croit beaucoup moins, parce que la police a d'autres chats à fouetter, probablement. L'armée allemande commence à essuyer de sérieux revers. La résistance s'est renforcée. Elle est capable désormais de protéger un certain nombre, disons, de réfractaires, même si elle ne peut pas tous les accueillir ni les protéger. D'ailleurs, un chiffre, une statistique, les gens qui ont rejoint la résistance ou qui... les réfractaires qui ont rejoint la résistance sont de l'ordre de 20% de la totalité. Mmh. Les autres, pour beaucoup, sont rentrés tranquillement dans leur village. On vivait déjà une autre époque.
On a dit que Sauckel, le fameux ministre chargé du recrutement de la main-d'œuvre dans les territoires occupés, et pas seulement d'ailleurs en France, a été au fond un des meilleurs propagandistes de la résistance, involontairement bien sûr.
C'est ce qu'on dit, on l'appelait négrier. Maurice Schumann, dans un éditorial célèbre de Radio Londres, l'appelait le négrier. Laval l'appelait Bardassier.
Ah oui.
C'était un homme qui avait des exigences folles. Par exemple, en janvier 1944, il demande 1 million de travailleurs supplémentaires, alors qu'ils sont incapables à ce moment-là d'en envoyer 1 000.
Alors, il y a, c'était un tournant, vous le rappelez aussi, Jean-Pierre Vittori, dans votre livre, c'était un tournant dans l'histoire de Vichy. Parce que là, c'est à partir de ce moment-là, surtout dès 1942, mais surtout en 1943, que le régime est de plus en plus discrédité. Que veut dire travail, famille et patrie s'il s'agit d'aller travailler, non pas pour la patrie, mais pour le pays qui vous occupe? Et là, il y a quand même beaucoup de Français, même pétainistes, qui étaient très hostiles au STO.
Mais il y avait un certain nombre de pétainistes déjà qui étaient anti-allemands. Ça, c'est une réalité. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'est une réalité. Et l'opinion publique a évolué. Je crois qu'il faut le situer dans ce contexte-là. Au début, au moment de la relève, l'opinion publique pensait, prise dans la propagande de Vichy, que les prisonniers allaient effectivement revenir. Puis petit à petit, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Il en est peut-être revenu 50 000, 60 000. Mais de toute façon, il y avait un jeu de libération normal qui a commencé dès 1940. En 1941, il y a eu des libérations de prisonniers. En 1942, en 1943. Donc, c'est une évolution de l'opinion publique.
Et malgré une propagande, vous parlez de la propagande de Vichy, très efficace pour encourager, bien sûr, les départs vers l'Allemagne.
Très efficace et très bien faite. Par exemple, la propagande de Vichy, à un moment donné, quand le nombre de partants a commencé à baisser, a envoyé une dizaine de grands reporters français, connus, qui travaillent dans les grands journaux, et qui sont revenus avec des reportages dithyrambiques sur la vie en Allemagne.
Français, voici des nouvelles de nos travailleurs en Allemagne. S'adapter à toutes les situations, n'est-ce pas là notre qualité maîtresse ? Nos compatriotes sont devenus charrons, typographes ou même conducteurs de trolleybus.
Notre camarade Jean Guillou, qui est reporter de la Voix du Reich auprès des travailleurs français en Allemagne, notre camarade Jean Guillou passe quelques jours à Paris. Vous allez pouvoir nous donner des renseignements de fraîche date sur la vie de nos travailleurs là-bas.
Je vous dirais qu'en général, les travailleurs français se trouvant en Allemagne ne sont pas malheureux et ne se plaignent pas. Je dis en général, car vous devez bien penser qu'il y a toujours les râleurs qui ne sont jamais contents de leur sort. J'ai trouvé le plus de rouspéteurs dans les jeunes gens du service du travail obligatoire. Ces jeunes gens qui n'ont pas fait de service militaire ne sont pas encore habitués à vivre en commun et à supporter quelques privations. Pourtant, ne généralisons pas. Et je citerai pour exemple un lac des environs de Vienne que j'ai visité, et dans lequel j'ai pu constater une mentalité excellente. D'ailleurs, chaque travailleur avait accroché à la tête de son lit la photographie du maréchal.
Concluons, si vous le voulez bien, en reconnaissant combien fut heureuse cette initiative de l'Amicale des familles d'ouvriers travaillant en Allemagne, qui consista à déléguer outre-Rhin cette pléiade d'artistes bien français qui apportèrent sans nul doute beaucoup de joie là-bas.
Espoir, il est prouvé que l'on dit espoir.
Pourquoi monsieur n'en pas à voir?
Pourquoi madame ne pas y croire? Tous les jours noirs ont leur lendemain. Les grandes histoires ont aussi leur fin. Espoir,
ce n'est parfois pas plus long qu'un soir. Mais ça suffit pour s'apercevoir que chacun de nous a dans son tiroir pour quelques sous d'espoir.
Et c'était un groupe de chanteurs français qui était parti en Allemagne pour encourager les travailleurs qui vivaient là-bas. Dans quelles conditions, Jean-Pierre Vittori, et dans quel type de travail faisait-il ?
Plus le temps passait, plus l'armée allemande subissant des revers, plus elle incorporait à des âges de plus en plus avancés, les soldats. Donc finalement, ils avaient besoin dans toute l'industrie.
Mais ils d'armement avaient, surtout
pas seulement d'armement, l'industrie en général. Ils avaient besoin de boulangers, ils avaient besoin de charcutiers, ils avaient besoin de maçons, ils avaient besoin de personnel dans toutes les catégories de travail. Donc ils faisaient venir un maximum de gens qui étaient spécialisés.
Ils étaient payés. Vous avez posé la question, votre livre est surtout fait à partir de témoignages. Alors, ils n'aiment pas répondre à ça, mais ils étaient salariés.
Ils étaient salariés, sauf qu'on a beaucoup dit qu'ils gagnaient des salaires mirobolants, mais en fait, à mesure que le temps passait, il fallait de plus en plus d'argent pour se nourrir sur place. Une cigarette pouvait coûter jusqu'à 4 marques, j'ai lu quelque part. Donc, on se rend compte que c'était extrêmement aléatoire, quoi, le salaire. Bon, malgré ça, c'est vrai que des sommes importantes ont été ramenées, ont été envoyées d'Allemagne vers la France, ont été ramenées d'Allemagne après la guerre. C'est une réalité. Mais on a beaucoup dit que c'était des salaires mirobolants, surtout ceux qui ont voulu dénoncer, disons, le volontariat du STO. Mais en réalité, non, ça n'a jamais été des salaires mirobolants.
Il y avait des réfractaires, on l'a entendu dans ce reportage. Il y avait même des tirs au flanc, il y avait même, dit-on, des saboteurs. Alors là, pour eux, le sort était difficile. C'était ce qu'on appelait les AEL, les camps de rééducation par le travail.
Oui, il y avait plusieurs, c'était gradué, les punitions. C'était d'abord un avertissement, comme dans une usine normale. Après une brimade, après on tapait dans le salaire. Et puis, lorsque ça devenait trop grave, par exemple, absentéisme répété, c'était quasiment un camp d'éducation par le travail, où on restait 2 mois. Et là, on remettait l'ouvrier dans le droit chemin. C'est-à-dire qu'on le brimait, on l'abaissait de telle manière qu'il était brisé quand il revenait dans son usine, ce qui servait d'exemple aux autres. Mais il ne faut pas oublier également qu'environ 6000 travailleurs qui sont partis au titre du STO ont été déportés dans des camps de concentration. Parce qu'il y a eu de la résistance du STO.
Il y a eu de la résistance, il y a eu aussi des conditions très dures, ils ont souffert de la faim, à la fin aussi des bombardements, effectivement sous-payés. Vous citez au début de votre livre Sauckel, justement ce fameux ministre qui était chargé au fond de superviser leur travail et qui disait « Tous ces hommes doivent être nourris, logés et traités de telle manière qu'on les exploite au maximum avec le minimum de frais ». On devine ce que ça veut
dire. Voilà, ils travaillaient 12 heures par jour. À un rythme. Les ouvriers français étaient déjà à l'époque très réputés pour leur efficacité. Mais on essayait de leur en sortir toujours davantage, surveiller de près. Ils travaillaient 12 heures par jour, tous les jours, parfois une demi-journée de repos. Donc voilà quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que tant sont rentrés malades et diminués physiquement.
Des preuves aussi de la solitude. Alors ils rentrent, quand ils rentrent, ils attendent la fin de la guerre, bien sûr, en Allemagne, pour que la plupart d'entre eux rentrent. Et ils sont, on dit qu'ils ont été considérés, pas traités, mais enfin considérés un peu comme des déportés. C'était le même ministère qui s'occupait des déportés politiques ou raciaux, revenant des camps de concentration d'extermination, et qui s'occupait aussi des travailleurs.
Oui, c'était un ministère qui s'occupait de l'ensemble, disons, des victimes de guerre, quoi. Ce n'est qu'ensuite, et petit à petit, qu'ils ont été considérés d'une façon différente. Mais dans l'opinion publique, quand même, il y avait quelques problèmes. En 1945, par exemple, l'industriel qui avait désigné lui-même la liste de travailleurs qu'il fallait envoyer en Allemagne, c'était toujours industriel. Il était toujours là. Il continuait à travailler, il continuait à employer des gens. Et quand on lui faisait remarquer qu'il avait fait une liste de travailleurs à envoyer en Allemagne, lui, il disait « Attendez, Non, moi j'ai fait de la résistance. Il en avait fait un petit peu en 44. Mais lui, il était. C'est pour ça que quand on parle de l'épuration, c'est un bien grand mot malgré tout.
En tout cas, quand ces travailleurs du STO reviennent, eh bien, ils se considèrent comme des déportés du travail, ce que refusent les déportés politiques Horatio. Écoutez d'ailleurs ce que me disaient 5 anciens travailleurs du STO au micro de l'Histoire en direct de France Culture en 1993, dont le plus connu d'entre eux, François Cavanna.
J'ai parlé de bon cœur. On m'a forcé. On m'a embarqué. Mais nom de Dieu, j'ai été coincé au début. J'ai été eu par surprise, comme beaucoup d'autres.
Jean Chaise.
Nous sommes des victimes. Des victimes de la déportation du travail, c'est tout. Nous sommes victimes d'une situation qui a été celle d'un pays qui a été battu.
Henri Braun.
Et alors, quand je vois certaines catégories qui nous critiquent, quand je vois des gens qui veulent dire qu'eux ont été malheureux. Attention, pas confondre avec les camps de concentration, avec les camps d'extermination. On a tous souffert du nazisme. Arrêtons toutes ces disputes qui ne servent strictement à rien.
Roger Jaillot.
Moi, ça m'est égal de m'appeler déporté ou victime, ou ainsi de suite. Mais je vois pas ce que ça pourrait leur faire que nous nous appelions déportés du travail et eux, déportés politiques. Leurs souffrances ne sont pas comparables aux nôtres et ils ont souffert beaucoup plus que nous. Mais c'est pour une raison, pour faire ce qu'ils font en ce moment.
Robert Jordi.
On ne peut pas comparer notre épreuve avec les concentrationnaires, toutes sortes de concentrationnaires, déportés politiques. Oui, mais il ne faut pas quand même barrer d'un seul coup de notre histoire qu'il y a eu une déportation du travail. Ça, il ne faut pas l'oublier.
Beaucoup d'amertume dans ce que l'on vient d'entendre, comme d'ailleurs dans tous les témoignages qui vous ont servi à faire ce livre, Jean-Pierre Vittori. Quand vous parlez du STO,
mais oui, parce
la page
que
n'est pas tournée, à
l'évidence. Non, la page n'est pas tournée parce qu'effectivement, petit à petit, les mots déportés et déportation ont pris une connotation tragique et liée à la déportation concentrationnaire. Ça veut dire que pendant la guerre, la résistance, quand elle appelait à ne pas partir à l'Allemagne, elle disait qu'elle s'opposait à la déportation du travail, effectivement. Et à l'époque, ce n'était pas un crime que de dire cela. Mais ensuite, il s'est passé en France, disons, un événement politique particulier. C'est lorsque le secrétaire général du Parti communiste, Georges Marchais, lorsque Georges Marchais est devenu secrétaire général du Parti communiste, lui avait travaillé en Allemagne. Et à une époque où le Parti communiste pesait 20% des voix. Et à partir de là, disons, la polémique a enflé. Parce que en salissant Georges Marchais, dont on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui s'il est parti volontairement au titre des réquisitions de septembre 1944.
Parce qu'il est parti juste avant la loi sur le STO. Enfin,
il est parti avant la loi sur le STO, mais après la loi sur les réquisitions. Oui. Et donc cette polémique a fait qu'on a jeté l'anathème sur les gens du STO en disant qu'ils avaient collaboré. Parce qu'en disant qu'ils avaient plus ou moins collaboré, on disait au secrétaire général du Parti communiste français, le Parti des fusillés, qu'il avait collaboré, ce qui était la pire des insultes pour un communiste.
Merci Jean-Pierre Vittori de nous avoir rappelé donc cette page douloureuse de notre histoire. Pour en savoir plus, je rappelle que vous êtes l'auteur de 2 livres sur le STO, « Eux, les STO », publiés aux éditions Ramsay dans la collection « Documents » et « Service du travail obligatoire, de gré ou de force », un roman historique pour les jeunes lecteurs à lire dès 9 ans et publié chez Nathan Jeunesse dans la collection « Les romans de la mémoire ». À lire aussi « Face à la Gestapo, travailleurs chrétiens et prêtres du STO » de Wolfgang Knopf, édité au Cherche Midi. Vous avez pu entendre un extrait du documentaire suivant, « Archives de guerre, ce que les Français ont vu dans les salles de cinéma », édité en DVD par Nouveau Monde Édition et commenté par Marc Ferraud, ainsi qu'un extrait de « L'Histoire en direct », une émission de France Culture, en décembre 1993. Des informations sur notre émission sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Pierre-Yves de Rolin et Benjamin de la Gâtinais. Archivina et documentation, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Clarisse Le Gardien. Une réalisation de Laurent Polleret.